Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 119. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, triste nouvelle qu'on apprend cette semaine. Vous avez entendu en introduction une des nombreuses compositions de James Horner qui nous a quittés. Malheureusement, il est mort dans un écrasement de son avion. Et vraiment, c'est quelqu'un que, même si vous ne connaissez pas de nom, parce que, bon, les compositeurs, en général, on retient pas nécessairement leur nom, mais il a vraiment comme marqué le cinéma hollywoodien, le cinéma américain. C'est quoi un peu ces compositions que vous aimez, vous, là, qui vous ont marqué, que vous allez écouter encore, peut-être, ou que peut-être vous avez en trame sonore chez vous?
Ben, les gros highlights de James Horner, c'est les films de James Cameron, je pense, Titanic, Avatar, Aliens... Sinon, ça fait vraiment longtemps qu'il en fait. Je pense qu'il y a comme... Je sais pas combien il y a de soundtrack à son actif, là, mais c'est juste des gros classiques, Braveheart.
Je pense qu'il avait comme 26 ans quand il a fait Star Trek 2, The Wrath of Khan. Il avait repris le thème de Jerry Goldsmith, là, la fanfare que tout le monde connaît, mais il avait vraiment réorchestré, réarrangé, remanié, tourné vraiment à sa sauce le thème de Star Trek, qui était quand même déjà... C'est un gros mandat, hein, tu peux te planter, je pense, assez facilement. Puis lui, ça a été son premier gros défi début carrière. Puis ça, c'est un peu Wrath of Khan, c'est quoi, 82, je pense, début 80. Puis ensuite, ben, c'est ça, comme Rémi a dit, là, je pense, à partir de Aliens, là, il a travaillé avec James Cameron. Moi, j'ai un fait pour Braveheart, là, je dois le dire.
Commando, c'était lui aussi, Commando.
Ouais. Ouais.
Dans un autre registre, là. Mais vraiment, puis j'ai lu, bon, évidemment, il y a eu une avalanche de commentaires sur Twitter, puis d'éloges et de réflexions des gens qui l'ont marqué. Quelqu'un disait que ses trames sonores étaient toujours émotionnelles, mais pas sentimentales, et qu'il savait faire la différence. Puis pour moi, ça résume tellement bien un peu son travail, parce que justement, moi, la trame sonore de Cœur Vaillant, de Braveheart, c'est vraiment pour moi l'une des trames sonores qui m'a le plus marqué dans l'histoire du cinéma. C'est une trame sonore que j'écoute souvent quand j'écris. Puis tu sais, des fois, j'ai juste ma bibliothèque en aléatoire, là, parmi mes trames sonores, puis mes musiques instrumentales. Puis quand ça joue, on dirait Cœur Vaillant, un des thèmes, ou le thème d'amour, ou le thème principal, ou les musiques de combo, on dirait que souvent, il faut que je prenne une pause, tu sais, parce que ça vient tellement nous chercher. Puis tu sais, il y a des films comme ça, je trouve que on peut pas les imaginer sans leur trame sonore, tu sais. Comme, justement, comme un Star Wars ou comme un Jurassic Park, justement, que le thème y est tellement associé. Et, justement, comme un Cœur Vaillant.
Mais il était pas fort sur les thèmes, par contre. Il y a quelques thèmes classiques dans sa grande, musicographie. Mais c'est un gars qui faisait de la job qui remplissait le film. Je veux dire, tout était là, mais c'était pas un John Williams où, justement, c'était des gros, gros thèmes marquants, je pense. T'sais, si on essaie de se souvenir des thèmes précis de ces films, c'est pas ça qui faisait le film. C'était que le...
Fredonne-moi Avatar, Rémi.
Ben non, c'est ça, là.
Non, peut-être pas Avatar, mais tu sais, y a-tu quelqu'un sur la planète qui connaît pas la musique de Titanic, là?
Non, c'est ça.
Donc, triste nouvelle, puis ce qui est dommage aussi, c'est que, tu sais, bon, on parlait de Christopher Lee au dernier podcast, mais qui était, bon, au terme de sa carrière, je pense qu'on c'était plus ou moins, je peux pas dire attendu, mais c'était pas une surprise. Là, il était quand même relativement jeune, il avait encore, tu sais, une bonne carrière devant lui, puis il était signé, évidemment, pour les suites d'Avatar. Donc là, ce sera quelqu'un d'autre qui devra prendre le flambeau, les suites qui s'en viennent dans les prochaines années. Mais bon, personnellement, je ne les attends pas plus qu'il faut, mais ça a été quand même le fun. Mais c'est toujours intéressant quand c'est le même compositeur, tu sais, qui s'approprie une franchise. C'est comme, pour moi, mettons, le Hobbit, tu sais, c'est ce qui est le meilleur dans cette trilogie-là, c'est la musique, tu sais. C'est Watcher qui revient, qui continue son travail. Ben, pour les Star Wars, c'est un peu pareil. Les prequels, la nouvelle trilogie, ben, ce qu'on retient surtout, peut-être, c'est les nouveaux thèmes de John Williams, de toutes ces nouvelles idées qu'il nous a apportées.
Ben, sinon, c'est Michael Giacchino qui patche tous les soundtracks, comme là, pour le John Williams était occupé pendant Jurassic Park 4. Donc, Giacchino reprend les thèmes, puis... Puis il se les réapproprie, puis les remâche, là.
Lui, sa carrière a explosé après Up, là. Tu sais, je veux dire, il en avait fait beaucoup avant, mais la musique de Up... Up, d'ailleurs, on va en parler, là, je pense, Inside Out, plus tard en émission. Moi, Up, je suis pas capable de le sentir, celui-là, je trouve que c'est le plus surestimé du catalogue de Pixar, mais la musique.
C'est bordel, un peu un blasphème ce que tu es en train de dire, mais en tout cas.
Ah, sérieux? Non, moi, hop, ça passe pas, je le digère pas en tout. Mais on va en revenir, on va en parler d'Inside Out. Mais bref, je voulais pas lancer la polémique tout de suite tôt en début d'émission. Mais ouais, bah, c'est ça, Crème, deuxième podcast qu'on ouvre sur un. Sur de tristes nouvelles, donc qu'est-ce que t'as de plus joyeux, là, au catalogue?
Ben, qu'est-ce que j'ai de plus joyeux? Moi, j'ai une question pour vous, les gars.
Horizon.
Donc, bon, c'est ça, nos pensées avec James Horner. Mais pour changer de sujet, c'est ça, c'est... Je me demande, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour la fête des pères, et, ben, tu sais, qui se rapproche du cinéma? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier? Parce que, autant la fête des mères, j'ai l'impression que ça c'est moins approprié pour aller voir des films. On dirait que la fête des pères et le cinéma, il y a comme un lien. Puis il y a beaucoup de films, justement, qui parlent de ça, le père et le fils. Donc, je me demandais si vous avez fait quelque chose de spécial, vous, dimanche.
Non.
Ben, moi c'était lié au cinéma. J'étais en Gaspésie pour du repérage. Donc,
toi, tu travaillais, c'est ça?
Ouais, moi, je travaillais. J'ai lâché un coup de fil. En fait, j'ai même pas pu parler à mon père. Mon père était aussi en voyage de vélo avec ma mère. Donc, pour toutes ces raisons, ouais, ça a été très, très, très peu en film et en cinéma. Mais tu poses un peu la question pour y répondre. Toi, Paul,
ben oui,
qu'est-ce que t'as fait de bon à la fête des pères? Ouais?
Ben, c'est justement, ben, j'étais dans ma belle famille avec mon beau-père, tout ça. Et on s'est tapé donc les trois Mad Max, la trilogie originale en Blu-ray à la maison.
Encore.
Puis on mangeait comme, tu sais, c'est une espèce de dîner qui s'est étendu jusqu'au soir. Donc on mangeait devant les films, tout ça. Puis c'était vraiment le fun. Puis tu sais, j'avais jamais vu en fait la trilogie originale. J'avais vu des scènes un peu, des extraits. Mais j'avais jamais vu les Mad Max, moi, tu sais, qui a vraiment beaucoup aimé le dernier film. Et pour bien conclure la soirée, on est allé voir le quatrième au cinéma, que mes beaux-parents n'avaient pas vu. Et tu sais, même ma belle-mère, qui n'est pas du tout film d'action, là, elle a capoté, puis elle est comme... Puis c'est drôle, parce que pendant le film, des fois, je le regardais, puis elle avait vraiment une phase de dégoût. Puis là, j'étais comme, oh non, genre, je pense qu'elle s'emmerde, puis qu'elle va vraiment nous en vouloir.
Je pense que c'est la première personne sur la Terre qui aime pas ça, là.
Non, mais finalement, c'est ça, c'était juste parce que c'était quand même très violent, puis c'était ça un peu qu'elle faisait réagir, mais elle a dit, tu sais, tu peux juste t'incliner devant comme un tel niveau d'excellence, là. Ce que je suis tout à fait d'accord. Mais non, c'est ça, donc, bon, on a déjà parlé en masse des Mad Max, donc je n'irai pas trop longtemps là-dessus. Mais je sais que Rémi, tu fais savoir un peu mon avis sur les films.
Ben, parce que moi, je les avais regardés, puis j'ai donné ma critique quelques mois, en fait. Je pense 6 mois avant qu'ils sortent, puis j'avais été très déçu, en fait. Fait que je voulais savoir un peu, toi, de ton côté, c'est ça, qu'est-ce que tu avais pensé de ces classiques, quand même?
Mm-hmm. Ben, c'est une franchise qui est vraiment le fun pour plein d'aspects. Premièrement, c'est le même homme, quand même, qui a fait les 4 films. La même personne à la barre de la saga, donc ça arrive quand même très peu souvent quand on y pense. Tu sais, même James Cameron, il a lâché Terminator. George Lucas, c'est pas lui qui a réalisé tous les films, même si, bon, c'est lui la tête maîtresse derrière tout ça, de Star Wars, bien sûr. Jurassic Park, bon, donc Steven Spielberg a fait que les 2 premiers. Donc, George Miller, quand même, qui fait les 4 films, et dont un qui est comme arrivé 30 ans plus tard.
Puis les 4 très différents. Là.
C'est ça, les 4 ont vraiment un ton différent. Puis en ça me rappelait un peu les Alien ou les Missions Impossibles. Tu sais, il y a vraiment chacun son ton distinct. Ça, c'est vraiment le fun. Puis d'ailleurs, le prochain film, j'espère qu'ils feront pas juste une redite de Fury Road. Même si je l'adore, ce film-là, tu sais, je veux qu'on aille ailleurs. Et les 4 premiers films, juste dans la palette des couleurs et la manière que c'est filmé, ils ont vraiment chacun un ton distinctif. Comme le premier film, ça, c'est vraiment quand même relativement terre-à-terre, dans le sens qu'on est encore dans le monde qu'on connaît dans les fins des années 70, et il y a des voyous, mais on n'est pas dans un monde post-apocalyptique. T'sais. Puis mon beau-père me disait, justement, ça y rappelait beaucoup, en fait, Deliverance, le premier Mad Max.
C'est une espèce de scénario où,
dans le fond, c'est juste des voyous qui viennent les attaquer, qui sont un peu arriérés. Dans un petit village, il y a des consanguins, puis il y a des trucs comme ça. Et ce qui est drôle aussi, c'est de voir à quel point, bon... Les voitures sont quand même modifiées, parce que c'est un peu ça l'attrait du film. Mais finalement, ils ont un peu de peinture, peut-être des capes de roue différentes. Mais finalement, les voitures sont assez quand même, tu sais, standards. Alors que dès le deuxième film, vraiment, on va explorer ça un peu,
steampunk, là.
Ouais, c'est ça, qu'on a tout refait la mécanique. Et c'est ça, dès le deuxième film, vraiment... Tu sais, c'est les costumes de cuir, le côté sadomasochiste qui est vraiment présent, les plumes, tout ça.
Les personnages hyper weird, là, qui sont très typés, quasiment cartoonesques.
Ouais, puis ça, vraiment, j'adorais ça. Puis je pense que c'est pour ça que le deuxième film, vraiment, tu sais, quand on pense à Mad Max, on pense aux
images du deuxième film,
c'est ça. Puis Puis alors que j'écoutais le premier, j'étais comme, ça a vraiment commencé comme ça, c'est bizarre, tu sais, c'était pas du tout ce que je m'attendais, mais bon, évidemment, il n'y avait pas un grand budget, là.
Ouais, le deuxième, en fait, c'est le premier que j'ai vu, mais pensant que c'était le premier Mad Max, parce que j'avais la VHS, puis le titre en français, je pense, c'est The Road Warrior. Ben, c'est The Road Warrior qui a été traduit en français, je ne sais plus trop c'est quoi, peut-être le guerrier de la route direct, là. Mais tu sais, c'est écrit juste ça sur la base, donc je me dis, bah, ben, ça doit être ça le premier, tu sais. Je savais pas trop, puis finalement, ben non. Il y avait quelque chose qui se passait avant. Mais c'est pas dans le présent. Il y a comme une espèce de touche futuriste sur la façon que la police est gérée, mais c'est,
ben dans
c'est
le vraiment deuxième, bizarre, hein? Dans le premier, ça reste. C'est pas vraiment indiqué l'année, tout ça. Mais ouais, c'est vrai que comme bon, c'est des policiers un peu qui font leur propre loi là, à la Judge Dredd. Et dans le deuxième film aussi, ce qui est intéressant, c'est comme il y a un côté politique aussi dès l'introduction. Tu sais, on fait référence, tu sais, aux guerres pour le pétrole, tout ça. Donc, il y a vraiment un propos qui est peut-être plus assumé puis qui est peut-être plus profond, malgré que ça reste quand même très léger. Une chose que je trouve qui vieillit mal, c'est peut-être le jeu de Mel Gibson. Je sais que ça va choquer bien des puristes, mais moi, je trouve que Tom Hardy est peut-être plus convaincant que Mel Gibson parce que Mel Gibson, je trouve que dès le deuxième film, il devient trop un peu conscient de son image. Tu sais, c'est comme, là, les villageois, ils discutent ça, puis là, il va juste siffler, fait comme, « Hey, vous voulez sortir d'ici, vous me parlez », tu sais, puis il devient quasiment comme un Bruce Campbell dans Evil Dead, tu sais, c'est-à-dire qu'il est vraiment conscient de son image, puis tu sais, il joue cool, puis ça fait que c'est moins un personnage crédible que vraiment une star de cinéma d'action. Donc ça m'a un peu dérangé dans un sens, alors que le deuxième se voulait quand même, tu sais, beaucoup plus sérieux dans son propos. Et dans le troisième film, c'est vraiment un film qui est décousu, qui, bon, au moins, tu sais, qui va ailleurs, qu'est-ce qui, c'est pas une redite. Mais, alors que la première partie, je trouve qu'elle est très intéressante, à Blathertown, je pense, le nom de la ville, avec Tina Turner, qui, bon, est très peu convaincante en actrice.
Et la première partie qui ressemble beaucoup au 4, en fait, ça ressemble un peu au monde futuriste qui est présenté dans le 4e, qui est, tu sais, juste une ambiance, quelque chose qu'on nous pitche sans trop nous expliquer on est où. Puis on voit ça avec le Thunderdome, justement, qui est dans le titre, mais qu'on voit pas tant que ça au final dans le film.
Ouais. Puis... D'ailleurs, je me demande, tu sais, parce que toute l'idée de vouloir les mettre sur des élastiques dans l'espèce de dôme, à quel point ça ajoute quelque chose? Tu sais, ça aurait pas été mieux juste de leur mettre comme un combat de gladiateurs, tu sais, un contre un dans l'arène, puis that's it. Donc, c'est ça, il y a comme des petites touches un peu kitsch qui fonctionnent plus ou moins dans le troisième film. Mais jusque-là, tu sais, ça va bien. C'est vraiment quand on se déplace puis qu'on arrive à la cité des enfants perdus, le film est dérouté, puis on se retrouve comme dans Capitaine Crochet, tu sais, les enfants qui connaissent pas la civilisation, qui sont, tu sais. Puis je pense aussi que le fait que le film passe de films qui sont faits pour les adultes à un film qui est PG-13, donc qui vise un plus grand public, et puis donc qui est moins violent, qui est plus généraliste.
C'est déjà mieux, là, ouais.
Donc je pense ça qu'on fait qu'on perd un peu l'essence quand même de ce qui fait Mad Max, tu sais. Donc, mais j'ai quand même aimé le troisième film. Je trouvais ça bien, justement, qu'on aille dans d'autres places. Et revoir le quatrième film au cinéma, c'est toujours aussi agréable. Puis vraiment, je vous avais parlé, justement, on parlait de trame sonore tantôt. Je vous avais parlé à quel point la trame sonore, j'ai de la misère à l'écouter à la maison. Mais en réécoutant le film, vraiment, comme ça marche pour le film. C'est vraiment ça.
La musique diégétique, des fois, il y a des plans aériens là, où tu passes au-dessus, puis... T'as juste la musique qui va en crescendo parce que tu passes au-dessus justement du véhicule avec la guitare électrique.
Ouais. Non, c'est ça marche super bien. Puis il va falloir étudier ce film-là lorsqu'on voudra faire un film d'action. C'est le découpage des scènes. Juste dès le début, là, quand il se sauve, quand Max tente en fait de se sauver, puis que tous les hommes en blanc qui le poursuivent, puis là, à un moment donné, il tombe dans l'eau, puis ça. Il y a aussi comme des flashbacks, des images mentales, parce que Max il est un peu fou, puis il y a des scènes qui lui reviennent en tête. C'est tellement bien découpé, c'est tellement bien filmé. C'est ce qui fait de meilleur dans le cinéma d'action, tu sais, comme au côté justement d'un Aliens de James Cameron ou d'autres films comme ça. Jurassic Park peut-être, tu sais. Donc, non, vraiment, une bonne saga, puis j'ai hâte de voir le reste. J'espère juste que ça va aller ailleurs.
Moi, j'ai vraiment aimé Fury Road, mais je peux pas partager autant cette espèce de ton d'enthousiasme. Je sais pas, toutes les fois je t'entends, puis j'entends le monde, puis je suis comme... C'est pas genre le chef-d'œuvre du siècle, là. On va se... En tout cas, bref, on en a déjà parlé, on relancera pas le bal. Mais que tu me dises que t'es retourné le voir, que l'expérience était renouvelée, ça parle déjà.
Je l'ai vu deux fois, moi aussi, au cinéma.
Aussi,
ouais.
Bon, c'est
puis la deuxième fois, j'ai autant eu de plaisir, en fait. J'ai comme, c'est sûr, t'as moins l'effet surprise, mais comme, puis j'ai réanalysé, en fait, ce qu'on parlait, puis justement, la musique aussi, je me souviens qu'on avait parlé, puis j'ai réécouté à l'utilisation de la musique, puis pour moi, c'est, je veux dire, c'est pas de la musique incroyable à écouter dans son iPod, mais dans le film, ça marche super bien. Puis toutes les bouts, en fait, diégétiques fonctionnent bien. Puis sinon, ben, ça remplit bien l'action, là. C'est rien qui te dérange, qui est trop, trop gros. C'est pas des gros thèmes, là, qui te rentrent en tête. Ça fait juste bien, bien, bien remplir, là, à travers le design sonore des sons de moteur, puis des coups de fusil, là. Moi, pour moi, ça fait vraiment parfaitement la job, là.
Ben, ça se trouve, tu sais, je veux dire, tu sais, parce que là, quand on vit, mettons, notre cinéphilie au temps présent, c'est drôle à quel point tu regardes, mettons, les années, mettons, 5 ans plus tard, puis tu regardes lesquels films qui te reviennent en tête. Tu sais, mettons que là, tu dis, en 2010, il me semble, c'était quoi, là, les 5 films, là? Tu oublies, là, ton top que t'avais écrit à l'époque, là, puis tu fais juste penser, genre, lesquels qui te viennent en tête, lesquels qui t'ont marqué. Puis, tu sais, probablement, c'est vrai, je pense que le film, bon, on peut évidemment pas parler de cette façon-là, right, parce qu'on est maintenant et aujourd'hui, mais ça m'étonnerait pas que ce soit quand même vraiment un film qui reste et un film qui marque.
Parce qu'on est quand même à mi-chemin de l'année, donc on a quand même vu plusieurs films déjà de 2015.
On pourra faire une petite rétrospective, comme on dit, si on a un peu de temps en fin d'émission, mais moi, il y a un film que j'aimerais parler en particulier, un film en 2015 à date qui m'a fait encore plus saliver que Mad Max, mais la suite plus tard.
Parfait, donc voilà pour la fête des pères. Et sinon aussi, par la force des choses, c'est la Saint-Jean demain, à l'heure où on enregistre. Peut-être que ce sera hier quand vous écouterez le podcast.
Vous pouvez louer le scaphandrier, il sort en DVD aujourd'hui.
Ouais, j'ai vu ça, le film québécois d'Alain Vézina.
Moi, j'ai vraiment hâte de le voir pour vrai, mais comme...
Non, je sais, c'est pour ça.
Une grosse histoire en plus avec ça, tu sais, ils ont eu une faillite, là. Ça a mis... Ça justement, il a fallu qu'ils coupent... C'est vrai que c'est passé, là. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont eu des dettes à redonner avec la faillite du film, là.
Non, c'est ça. C'était comment je peux dire ça? C'était pas juste mesquin ce que je voulais dire. C'est, je suis quand même vraiment curieux de le voir, genre à quel point c'est un shipwreck.
le gag en plus fonctionne très bien, shipwreck.
Un petit gag.
Mais moi je suis fan de slasher en plus. Je suis même pas allé le voir au cinéma, je me sens vraiment presque mal de pas être allé le voir et de pas avoir encouragé le cinéma d'horreur au Québec. C'est rare qu'on en a. Mais ouais, même mes amis amateurs de films d'horreur m'ont dit que le film a ses fautes, là, disons. Là. Il a essayé d'en faire beaucoup. Là. Des fois, quand tu essaies un peu trop, ça peut jouer contre toi aussi. Là.
Fait que s'il sort en VHS, on se l'écoute en gang. C'est bon,
on le transfère puis on le met en VHS.
On... Tellement, on devrait. OK, c'est bon, parfait. C'est ça qu'on va faire dans notre Saint-Jean. Merci, Paul, pour cette bonne idée.
Il y a aussi le site web pour le film Paul à Québec et donc en ligne maintenant. Il y a des extraits, il y a un extrait du film. Et puis, bon, évidemment, c'est basé sur la BD de Rav Bagliati. Et il y a donc, il va avoir une édition spéciale de la BD avec une nouvelle couverture où tu vois genre le personnage de Paul qui va voir le film Paul à Québec. Puis, une belle couverture. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup, Michel Rav Bagliati. Et bref, on a hâte de voir ça. C'est en ouverture du festival de la ville de Québec, justement, en septembre. Donc, on a bien hâte de voir ce film-là. Sinon, d'autres films québécois, peut-être que pour la Saint-Jean, que vous conseillez. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose cette année dans le cinéma québécois qui m'ont allumé jusqu'à présent. J'en ai pas vu beaucoup.
J'ai vu Elephant Song, mais je n'en ai pas parlé au podcast de ce film-là.
Pas du tout.
Non, c'est ça. Est-ce que ce serait une bonne recommandation pour la Saint-Jean? Faut dire que c'est un film en anglais déjà, donc certains.
Ouais, vont déjà. Mais c'est un film, tu sais, je veux dire, il y a du talent québécois derrière. Ouais. Tu sais, je veux dire. Définitivement, c'est Charles Bien-Aimé à la barre, Xavier Dolan dans un rôle. Xavier Dolan, d'ailleurs, qui, on va le dire, d'entrée de jeu, moi, je l'ai pas trouvé agaçant, je l'ai trouvé même assez bon, pour être bien honnête. Je trouve que c'est un rôle qui lui va bien. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on revient souvent à ça, je pense que Xavier Dolan, il est complètement... Maintenant, il n'y a absolument rien à prouver au niveau de...
Derrière la
caméra, ou en doublage même, mais en tant qu'acteur, c'est... on en avait déjà parlé, mais je trouve qu'il y a trop tendance à mettre de lui-même, mais finalement contaminer un peu trop les personnages, finalement, peut-être pas s'abandonner assez aux personnages, d'une certaine façon. Mais là, je veux dire, le personnage est vraiment un peu, j'ai l'impression, peut-être une espèce d'extension de lui-même, mais évidemment dans une tangente beaucoup plus folle. Là, tu sais, dans Elephant Song, en fait, c'est un quasi huis clos, quasi temps réel sur finalement un psychiatre. C'est-tu un psychiatre? Je pense que c'est un psychiatre qui arrive parce qu'il vient étudier la disparition d'un des médecins de l'hôpital et le personnage de Xavier Dolan, qui a un passé assez trouble et qui est comme une espèce de patient fou, mais un peu surdoué, un peu beaucoup surdoué, très intelligent, qui fait beaucoup d'humour noir, beaucoup de sarcasme. Il serait impliqué dans cette disparition-là et on ne sait trop pourquoi. Et puis là, dans le fond, le film se joue... Il y a beaucoup de jeux, finalement. Le film est motivé par le personnage de Xavier Dolan qui fait un genre de jeu de chat et la souris avec le personnage de Bruce Greenwood. C'est ça, c'est Bruce Greenwood.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est ça. Bon. En fait, le début du film fonctionne très bien, mais comme tout bon huis clos, c'est meilleur quand ça reste un huis clos. Comment je pourrais dire ça? Il essayait trop de mettre du background. Il y a des flashbacks du personnage de Xavier Dolan là, en Afrique. Là. Puis ça marche pas. Puis ça donne de la production value au film. Puis ça fait des beaux shots pour le trailer. Mais pour vrai, là, c'est vraiment... Puis en plus, ça te sort de la logique interne du film qui est, on sait jamais s'il l'invente ou s'il il l'invente pas. Mais quand tu vois les flashbacks, finalement, c'est pas... Mais les flashbacks sont pas joueurs, c'est pas comme Rashomon ou quelque chose comme ça, où ce que tu vois peut être faux, genre. Comme le flashback, c'est tout le temps comme un peu la vérité. Fait que finalement, ça désamorce full d'intrigue. J'ai vraiment trouvé que c'était complètement idiot, en fait, de les intégrer, pour être bien honnête, pour être bien, bien franc, là. Désolé si je suis un peu rough, mais... Donc ça, c'est les flashbacks du côté du personnage de Xavier Dolan, puis du côté du personnage de Bruce Greenwood, oh là là! Il y a comme de l'espèce de contexte de sa famille, de sa femme, de son ex-femme, et puis là, on est dans une... Je sais pas là, quel épisode de Virginie, là, ou je sais pas quel épisode de Grey's Anatomy, mais ça marche pas. Fait que le film a ses forces vraiment dans son cœur, finalement, dans son intrigue en huis clos. Même t'es assez tenu en haleine, tu sais, jusqu'à ce que finalement, il lance une curve ou qu'on va voir ailleurs où on ouvre finalement l'éventail pour aller voir les démons de la vie privée de l'un ou de l'autre. Là.
Tu devrais faire comme Soderbergh là, qui refait des montages de certains de ses films préférés puis ben ouais. Ça, c'est ton site web. montage sans les flashbacks.
Un moyen métrage d'Elephant Song.
Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, ça aurait pas été un moyen métrage. Je pense que le film dure comme peut-être 1h50 puis je pense que finalement, la crap, là, pardonnez-moi le terme vraiment rough, mais tu coupes la crap puis ça l'amènerait à genre 1h25. Tu sais, ça serait resté un long métrage, là. Tu sais, à la 12 Angry, tu sais, un court huis clos, là, mais tu sais, ça, je sais pas, là, comme les bons, là, comme 12 Angry Men ou n'importe quoi, là, tu sais. Mm. Fait que je suis très partagé, mais je le conseille, puis Xavier, il passe vraiment bien. Tu sais, c'est un peu ça qui, comment je pourrais dire ça, c'est un peu do or die dans un film comme ça, où il prend autant de place. Puis pour moi, ça a passé. Ouais. Puis tu sais, Charles Binamé, c'est un peu un photographe, des fois plus qu'un réal, dans le sens où, tu sais, il n'y a pas beaucoup de grandes idées de staging, mais c'est toujours très beau, très léché, c'est efficace. Il sait où placer sa caméra pour avoir les compositions nécessaires, le jeu d'éclairage nécessaire. Rien de révolutionnaire, mais bon.
Ces films, en général, je trouve que c'est un peu fade, en fait, justement. C'est comme. Ouais. Ça raconte l'histoire, c'est tout fonctionne.
Tout fonctionne. J'ai
comme rien à dire au niveau de la photo, de la DA, mais c'est juste ça n'excède pas plus que ça. Là. C'est des films très tout public, genre comme.
Mais c'était l'homme de la situation pour un huis clos, j'ai trouvé finalement, parce que tu sais, comme il n'y a finalement pas beaucoup de lieux dans le film qui sont explorés, il a vraiment bien travaillé à explorer l'espace sans non plus que ça fasse genre on va juste faire des shots cool puis différentes pour faire des shots cool puis différentes là. Fait que c'est assez dynamique d'un côté puis c'est pas trop agaçant finalement de l'autre bord. J'ai trouvé qu'il y avait une belle c'est un bel équilibre à ce niveau-là. Fait que ça, c'est chapeau pour sa mise en scène. Mais je te rejoins là, Rémi, je veux dire, je peux pas vraiment parler de Binamé comme un cinéaste qui m'inspirerait là au niveau de ses aptitudes à la réalisation, mais c'était pas nécessaire pour un film comme ça, donc mais non, il s'est pas fait assez confiance. Comme il fallait que ça reste là, un film semi-pièce de théâtre, là, comme on les aime. Quand le scénario est bon, ça peut passer. T'sais.
Ben écoutez, voilà. Parlant de théâtre et de cinéma québécois, j'ai vu un film l'autre jour, un film québécois, pas nécessairement pour la Saint-Jean, mais parce que ça faisait longtemps que je voulais le voir. Je sais pas si on a entendu parler, c'est un film, ça s'appelle Incendie. de Denis Villeneuve.
Puis, tu l'avais jamais vu, tu l'avais pas vu en 2012?
Je l'avais jamais vu. Ouais. Ben, l'affaire, c'est qu'à l'époque, je travaillais au RVCQ et j'avais donc, bref, pour faire une soirée course, j'avais vu la fin parce que j'étais gérant de salle et je devais m'occuper des Q&A et tout ça. Et donc, j'avais vu un peu le punch, tout ça. Je connaissais la fin, mais j'avais jamais pris le temps d'écouter le film. Et on dirait que des fois, des films qui sont trop dans acclamés, qui sont trop dans le buzz, on dirait que des fois, ça me repousse. Donc, donc j'aime ça comme laisser la poussière retomber avant d'écouter des fois ces films-là. Donc, j'ai vu Incendie, puis d'ailleurs, aussi, c'est parce que je trouve que j'étais un peu en retard sur mes films de Denis Villeneuve. Lui, qui en ce moment, est en tournage.
T'avais-tu vu Maelstrom?
Maelstrom, je l'ai vu, mais j'ai toujours pas vu Ennemi, j'ai toujours pas vu... Ouais. C'est quoi l'autre?
Prisoners. OK.
Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon devoir, un peu, de cinéphile québécois.
La bande-annonce de Sicario, ben moi, je fais, comme d'habitude, là, j'écoute tout le temps, genre, 60% des bandes-annonces, là, parce que, tu sais, comme...
Ouais, tu devient les punchs tout le film, c'est ça. Hein?
Quand ça devient les bouts intenses, genre où tu vois toutes les images du film, là, souvent, je skip, là. Mais bref, j'ai écouté 60% de la bande-annonce de Sicario, genre au moment où ça commence à devenir violent puis il commence à shooter partout. Puis, God, c'est efficace. Ça a l'air vraiment solide. En tout cas, bref,
J'ai goût de dire que Denis Villeneuve, on dirait qu'il a trouvé vraiment là où il peut le mieux laisser paraître son talent, tu sais, parce que chaque cinéaste a des forces et des faiblesses. Puis je pense que la mise en scène, vraiment maîtrisée, calculée, le rythme patient de Denis Villeneuve va à merveille à un certain cinéma américain de genre. Là où peut-être que pour les drames, pour des films québécois, des trucs plus verbeux, peut-être ça marche moins. Et Incendie, justement, c'était vraiment le fun pour ça, en fait, c'était voir à quel point déjà là, tu sais, mettons Polytechnique puis Incendie, il y a vraiment comme un step-up au niveau de la direction photo qui est hallucinante, le rythme, le montage, les compositions. C'est vraiment une assurance qui... T'sais, on voit pourquoi donc il fait carrière aux États-Unis et pourquoi il a été remarqué.
Ouais, puis c'est surtout qu'Incendie, c'est un film qui a l'air très très gros. Puis je pense que c'est quoi le budget? C'est à même pas 8 millions.
Ouais, j'imagine. Je peux me tromper,
mais je pense que c'est 7 millions ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, je veux dire, comme tu es un producteur américain, tu vois un film comme ça, tu te dis c'est quoi le budget? 7 millions et demi. C'est qui les talents derrière un film comme ça? Parce que l'argent est à l'écran, vraiment, là, dans un film comme Incendie, définitivement.
C'est impressionnant, maudit. Puis c'est ça, puis on parlait de force et de faiblesse. Je pense qu'une faiblesse, peut-être, de Denis Villeneuve, c'est la direction d'acteur. J'ai pas vu tous ses films, mais c'est très, très inégal dans Incendie.
Ouais, ça, c'est vrai.
Non seulement le jeu, mais les niveaux de langage, puis les... Parce que,
le casting est raté, en fait, moi, je trouve.
Ben, ça commence au casting, puis ça continue au tournage.
Ben, je pense que ça dit tout. Rémi Girard, dans le film, je pense que c'est... tu parles de la sa force qui est dans la mise en scène et non dans les grosses scènes de dialogue, puis quand c'est du dialogue explicatif, comme les scènes avec Rémi Girard dans Incendie, c'est un peu désastreux, là. C'est le bout où le film... c'est les failles du film, en fait, c'est ça. Je pense que si tu le regardes avec l'œil et l'oreille, surtout de quelqu'un qui parle en anglais, qui va pas parler français. Bon, les sous-titres, ça va peut-être être moins pire, vu que t'as pas cette connexion-là directe à la langue, là. Donc, tu peux dire, ça doit bien passer, là, mais ces scènes-là, pour moi, c'est les bouts où le film fait quasiment pas de sens, en fait, là.
Non, c'est ça. Puis, c'est quand que, mettons, c'est comme quand un film anglophone reçoit des critiques très négatives parce que, telle actrice, l'accent irlandais, le pas du tout, c'est risible. T'sais, puis ça me passe un peu par-dessus la tête. Mais non, vu que je suis pas anglophone, là, mais un film comme Incendie, justement, qui a plusieurs niveaux de français différents, s'explique aussi par le casting international, mais des fois, ça clash, puis c'est pas convaincant, puis c'est pas juste une question de la langue, c'est aussi une question de la diction, puis du style de jeu. Ouais. Donc, mais moi, tu vois, Rémi Gérard, c'est peut-être même pas le plus gros problème, selon moi. Je trouve qu'il fait quand même bien la job pour le petit rôle qu'il a. Mais Maxime Godette, là...
C'est drôle que tu dises Maxime Godette, en plus, parce que, tu sais, on le sait, moi, c'est un acteur... Il peut être très, très bon. Puis dans Polytechnique, là, c'est très, très bien, mais c'est parce qu'il se bat contre son casting. Puis, je veux dire, Mélissa Desmoulins, il se bat contre son casting. Tu peux pas jouer des enfants d'Arabes, là.
Ouais, déjà ça, c'est un gros déjà problème. Ça. Là, ouais.
Non, mais tu sais, je veux dire... Bol. Puis là, on est en rendu... Ben là, ce film est en 2010, mais là, on est en 2015. Vous avez vu comment Cameron Crowe, il s'est fait ramasser avec Aloha quand que, t'sais, il casse justement
Emma Stone
là, t'sais, pour jouer quelqu'un d'Hawaï. Mais c'est ça, ça va être ça, la vie. C'est ça, la vie, je veux dire. Là, faut rattraper ça, là. Puis il y en a, hein, des acteurs. Puis moi, je veux pas me nommer le nom, mais moi, j'en connais une actrice qui s'est ramassée dans la dernière batch d'audition pour Incendie. Puis c'est une actrice qui vient, t'sais, d'un pays maghrébin. Puis, je veux dire, ça aurait été tellement mieux. En tout cas, je veux dire...
Ouais.
Mais ça, Domo Poulain, c'est pas elle le problème. C'est qu'il se bat contre son casting, tu sais. T'sais, toi, t'es un acteur, t'es content d'avoir le rôle, là.
C'est pas toi.
Tu sais, voyons.
Ouais.
Mais ça passe pas. Maxime Godette, dans ce rôle-là, il ne passe absolument pas.
Non, ça va vraiment, vraiment pas, là.
Puis, tu sais, puis ça fait juste mettre en relief à quel point l'actrice qui joue la mère, j'ai un blanc pour son nom, puis c'est poche, parce qu'elle est tellement bonne.
Ouais, vraiment, là, c'est ça, je voulais la mentionner.
Elle est incroyable dans ce film-là, parce que c'est bon.
Elle porte le film sur ses épaules, là.
Ouais, absolument, absolument. Donc, en tout cas, un gros problème, là. Le bas blesse longtemps. Puis, tu sais, moi, je reviens tout le temps à ça, le casting. Je trouve que c'est tellement important parce que, tu sais, souvent, cette comparaison-là, mais tu sais, un shot flou, un mouvement de caméra qui est un peu moyen, ça dure 2 secondes, ça dure le temps que ça dure à l'écran, puis après ça, tu l'oublies, là, une fois que la scène est finie. Mais un mauvais casting, là, c'est scène. C'est comme si la même erreur était répétée scène après scène, chaque seconde où que la personne miscast est à l'écran, ça coule un film, tu sais. Puis Incendie, il y a tellement de qualité, ce film-là, que ça, c'est frustrant. Moi, ça me frustre
en tant que cinéphile. Je suis comme...
On est si proche d'avoir une grande œuvre entre les mains, puis je sais pas, tu sais. Puis est-ce que ça fait vraiment une différence pour un film comme ça, tu sais, d'avoir des gros noms? Il me semble, ça fait pas de différence. Le film aurait probablement été aux Oscars pareil, là. C'est aux Oscars, ils s'en fichent, ouais. Là, c'est plus à dire plein, là.
Non, mais c'est plus pour le marché local, là.
Je sais.
Ben, mais comme... en même temps, même pour le marché local, je veux dire, là, va être grande quand même, là. Il y a des cinéastes, il me semble, qui castent... j'essaie de trouver, là, il y a un film que j'ai vu récemment, puis il y avait genre juste... une personne dans le casting qui était connue, puis tout le reste, on en a rien à foutre. Tu sais, quand le film est bon autour de ton casting, le film est bon, point, là, ça finit là.
Ben, je veux dire, l'année d'après, il y a eu Rebelle de Kim Nguyen, puis pour moi, Rebelle, tant qu'à parler d'un film québécois, exotique, pour moi, Rebelle est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus conséquent entre finalement son idée, puis sa vision, puis le produit final, tu sais, me semble. C'est un film qui a une raison d'être à tous les niveaux. Puis Incendie, on la perd un peu cette raison d'être-là, finalement, dans le casting raté, tu sais, à mon avis. Donc, mais ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, je suis un gros fan de Maelstrom. Hein. Puis, tu sais, oui, la direction d'acteur, c'est peut-être pas sa force, mais quand il s'entoure de bons acteurs, tu sais, Marie-Josée Grosse, pour de vrai,
c'est qu'il y a certains excellent. Acteurs qui ont même pas besoin de direction. Tu sais, certains acteurs qui sont tellement bons dans leur rôle. Que peu importe c'est qui le réalisateur, sont intéressants.
T'sais. C'est ça, on le saura jamais finalement.
On le saura jamais.
Puis le degré, le degré d'implication du réalisateur. Mais pour moi, par exemple, justement, Maelstrom, la performance de Marie-Josée Croze, c'est une incroyable performance, tu sais, dans notre répertoire de cinéma québécois. Point, au final, tu sais. Puis, tu sais, en Prisoners, là, quand t'as Hugh Jackman dans ton lead role,
tu sais quand même que. La qualité d'un acteur vient à 75% du casting. Là. Tu peux avoir un acteur vraiment pourri, peut-être pas pourri, là. Peut-être que là je vais un peu loin, mais tu peux avoir un acteur qui est pas si bon, mais qui est bien casté, donc il devient vraiment bon. Tu sais. Il y a beaucoup d'exemples de gens justement qui vont fitter dans un type de rôle, puis quand ils font ce rôle-là, ils sont incroyables. Puis dès qu'ils changent de registre, ça va pas, là, ça dérape.
Non, exact. Ouais, pourquoi? Hey, on a tellement dérapé pour
j'ai aucune idée de où on est parti. Ah,
c'est la Saint-Jean. On parlait de la Saint-Jean, là.
C'est la Saint-Jean, bonne Saint-Jean.
Voilà, donc. Merci. Bonne Saint-Jean à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent et qui nous lisent. Voilà. Sinon, cette semaine, on a vu comme la moitié de la planète. Ou du moins, moi et Rémi, on a vu, toi tu l'as pas vu, Pascal, Jurassic World de Colin Trevorrow.
Parlant du cinéma québécois, genre, accessible. Non, mais... Puis moi, en plus, je voulais vraiment pas aller le voir. Hein. C'est comme... ça s'est fait tellement vite, là. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Puis à un moment donné, j'étais assis dans la salle avec Paul.
Ça
avec
mes plaisir. Lunettes
3D devant un écran IMAX, là.
De rien.
Puis, mettons, review très courte, là. J'ai vraiment aimé ça plus que je pensais, là.
Ah ouais,
c'est vraiment pas un bon film, mais j'ai vraiment eu du plaisir.
C'est vraiment comme la définition, je pense, d'un plaisir coupable, hein.
Vraiment. En fait, c'est vraiment ça. C'est un film, c'est un série B avec beaucoup, 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 beaucoup d'argent, là.
Puis ce qui est vraiment étonnant, vraiment, c'est... Tu sais, comme Colin Trevorrow, là, on parle d'un gars, un Américain, donc, qui a fait un petit film indie de science-fiction, une couple de courts-métrages.
Ouais, je l'ai regardé en passant Safety Not Guaranteed, là, sur le film qu'il a fait juste avant. Ouais. J'ai pas trippé fort, c'est pas vraiment bon, là. C'est pas...
Moi, j'aimais ça, puis je le défends beaucoup, là, mais...
J'ai trouvé ça très... très ordinaire. En fait, c'est des gens, c'est pour rapidement, en fait, le film qu'il a fait avant Jurassic World, qui est comme un film, je comprends pas en fait d'où il sort, là, d'où il sort d'avoir fait un film comme ça.
C'est comme un genre de comédie offbeat, c'est ça?
Comédie romantique, offbeat, indie, là, c'est un journaliste puis c'est deux stagiaires qui s'en vont interviewer un mec qui aurait créé une machine à voyager dans le temps.
Ouais, Paul en avait parlé au podcast, t'avais déjà
fait une mais c'est ça, je l'ai regardé puis j'aurais aimé ça plus que ça, mettons, là. Puis j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de surprise dedans. Pour moi, c'est une rom-com un peu classique avec une petite twist de fantastique dedans, mais comme c'est pas souligné à grand trait. Il y a des petits moments où je me demandais pourquoi il y avait de la romance, parce que ça va l'air un peu forçant entre les personnages, mais au final, mon plus gros questionnement, c'est comment tu passes de ça à faire genre Jurassic World avec genre $1 million de dollars.
Ouais. Ben, j'ai justement la réponse pour toi, Rémi. Et imagine-toi donc que Steven Spielberg a, comme moi, beaucoup aimé le film. Et surtout, en fait, il a vraiment apprécié le côté optimiste, certaines mauvaises langues diront naïf du film. Là. Et c'est pour ça qu'il a choisi pour faire Jurassic World, parce que Spielberg est donc producteur exécutif. Et ce qui est fou là, de Jurassic World, là, écoutez ça, le premier week-end du film, il a fait plus de $200 millions. C'est le plus gros démarrage en un week-end de tous les temps. Ça l'a battu tous les Star Wars, ça l'a battu tous les Harry Potter, ça l'a battu les Avengers. C'est maintenant le plus gros démarrage de tous les temps. Le film a déjà dépassé le milliard de dollars dans le monde à l'heure où on parle, seulement comme le 22 ou 23e film à accomplir l'exploit. Et il se dirige à pas de géant, donc pour être le film le plus gros film de l'année.
À pas de T-Rex même.
À pas de T-Rex.
Rémi.
Jusqu'à possiblement, bon, il y a Star Wars en décembre qui est peut-être le seul film qui peut y mettre des bâtons dans les roues, mais donc un immense succès, puis je me l'explique plus ou moins bien, mais bon, je pense que les gens aiment Jurassic Park.
Tout le monde aime les dinosaures.
Tout le monde aime les dinosaures.
Non, mais y a-tu un kid, tu sais, mettons qu'on oublie là, que là maintenant on a une conscience là, puis qu'on est comme semi-intelligent là, parce qu'on est rendu des adultes puis de cœur là. Il n'y a pas un Chris de kid qui aime pas les dinosaures. Là.
Puis le film, ils ont quand même visé dans plusieurs branches. Donc, ils ont visé vers les enfants, justement. Là, comme les personnages principaux, t'as encore des enfants, comme dans presque tous les Jurassic Park. Là. Dans le 3, je m'en souviens plus exactement. Oh, oui, il y a un kid, c'est vrai. Il y a un kid dans le 3e.
Hey, le 3, je m'en rappelle plus.
Non, non, mais c'est pas correct comme ça. C'est correct. On n'en parle pas. Il n'y en a pas.
Ah, c'est ceux-là avec...
Il retourne sur l'île, c'est genre
Sam Neill qui retourne sur l'île.
Il y a un crash d'avion, puis là il y a comme un dinosaure plus gros que le T-Rex encore.
C'est ça.
C'est Joe Johnson qui l'a fait, mais c'est pas grave. En gros, t'as le facteur pour les enfants, t'as le facteur pour les adultes, puis pour les geeks à fond là, parce que t'as des combats de dinosaures là, c'est sûr là. Puis t'as le facteur nostalgique qui est là parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil au premier film. Juste des accessoires, il y a même un lieu de tournage à un moment donné qui fait écho au premier film, donc le si je peux donner c'est pas un spoiler là, mais il redécouvre le lieu où le tyrannosaure à la fin du premier là, t'as comme la banderole qui tombe là. Où il y a un squelette là, en plein milieu de la place.
Hall, d'exposition.
Là. C'est ça, le hall d'exposition, là, à la fin du premier. Là, c'est le dernier lieu de tournage du premier. Bon, on le revoit, mais comme dans un état un peu délabré, là. Enfin, un peu beaucoup le même. Là. Mais fait que t'as ces petits clins d'œil-là qui font quand même écho au premier. Fait qu'il y en a comme un peu pour tout le monde, mais ça reste que c'est vraiment pas un bon film là, au final.
Ben, le problème avec le troisième film, en fait, c'était que t'sais, il retournait sur l'île comme si rien ne s'était passé. Il essaie de faire un dinosaure juste plus gros que les autres, plus cool. Et t'sais, finalement, il ne se passe rien d'original. Puis les personnages agissent de manière stupide. Ouais, mais dans Jurassic World, est-ce que c'est différent tant que ça? La réponse est non. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment bizarre, en fait. Jurassic World reprend...
Supposé que la fille... Moi, j'ai vu beaucoup de monde qui se sont insurgés contre le personnage féminin. Là. Supposé que la fille est comme greluche complètement.
Mais c'est parce, que, c'est parce qu'en fait, c'est... Dans le premier, quand la c'était Laura Dern...
Ben, c'est Laura... Déjà, quand t'as Laura Dern...
Qui se met les mains dans la crotte de dinosaure. Tu sais, qui est comme... Je veux dire, le personnage était déjà plus féministe dans un sens que... Mais pas dans un sens. Elle était plus féministe que ce personnage-là. Dans le film où genre la fille elle apporte ses talons, est habillée toute propre, elle veut pas salir les mains, genre tout le long elle garde ses talons là, c'est comme un running gag pas super drôle là où genre là elle va elle va aller se faire face à des dinosaures, mais avec ses talons. Elle se promène dans la jungle avec des talons hauts.
Elle réussit quand même à dépasser des dinosaures en talons.
En courant, en talons hauts.
Puis pas des petits dinosaures. Là, je veux dire, techniquement, là, un raptor ou un brontosaure ou un T-Rex, là, ça court plus vite qu'un humain. Là.
Techniquement,
oui. Techniquement, si ça existait.
Scientifiquement, là, j'ai une étude à l'appui. Hein.
Mais c'est qu'à côté, tu sais, à côté d'une Laura Dern dans le premier, qui est d'abord une actrice incroyable, mais aussi qui est son personnage, je veux dire, elle se met les mains dans la marde directement. Ouais. C'est vraiment, tu sais, c'est directement ça qui se passe.
Mais ça, c'est
comme. Femme accomplie, là, tu sais.
Mais non, mais c'est ça, c'est une femme qui prend les choses en main.
Ben, à la limite, c'est le rôle, tu sais. Donc, je me dis.
Ouais,
parce que là, dans Jurassic World, elle, c'est comme la directrice marketing, si on veut, puis relations publiques. Donc, elle est tout le temps sur son cellulaire, puis elle est plus, donc, à faire les appels, puis à gérer les cas. Que, ouais. Tu sais, elle n'est pas une scientifique. Donc,
tu peux lui donner quand même un double. Tu sais, un penchant, justement, où elle peut switcher en plein milieu du film. Elle peut avoir un thrill, elle peut avoir comme un côté aventurier qui ressemble en plein milieu du film, mais elle n'a pas d'évolution comme ça.
Ben, le pire, c'est que le film commente là-dessus en plus, parce qu'il y a vraiment un passage. Pis c'est ça qui me gosse un peu de ce film-là, c'est que c'est tellement un film qui est conscient de ses défauts, mais qui s'en fout. Tu sais, qui me dit, ouais, on est stupide, puis on aime ça, puis genre, tout le monde va venir le voir, puis ils ont raison. Mais comme, à un moment donné, il y a une scène la plus stupide du film, peut-être, là, c'est le personnage justement donc, de Bryce Dallas Howard, qui est comme une très bonne actrice, mais qui est complètement sous-utilisé là-dedans. Et donc, elle dit au personnage de Chris Pratt, « Ah non, je veux te suivre, moi aussi, pour aller sauver les enfants, whatever. Je veux te suivre. » Chris Pratt est comme, « Ben non, tu peux pas me suivre avec ces talons-là, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attache ses cheveux, elle enlève sa veste, puis elle la noue à sa taille pour rappeler un peu la tenue de Laura Dern. Puis elle enlève pas ses souliers. T'sais, c'est comme, le film commence sur le fait qu'elle a des talons hauts, puis c'est ridicule. Puis elle fait juste comme enlever sa veste, puis attacher sa veste. Puis là, elle met les mains sur ses hanches. Puis là, Chris Pratt fait comme... Qu'est-ce que tu dis, là? Puis là, c'est comme... C'est tout. Après ça, ben oui, elle est en talons hauts, puis elle suit. Tu sais, c'est tellement irresponsable. Un humain la laisserait pas comme ça, genre un humain normal. Puis c'est même tout le film, c'est que les personnages prennent des décisions stupides.
Même un dinosaure ferait pas ça, en fait, là.
Hein, au lieu... Parce que dans Jurassic Park aussi, c'est que les personnages sont victimes des situations... Tu sais, puis il essaie d'agir de la manière la plus sensée possible, tu sais. Dans Jurassic World, c'est carrément les personnages qui ouvrent la porte à tous les dangers et qui sont directement responsables de la mort de plein de personnages, tu sais. Fait que ça fait que t'as juste... finalement, on a juste le goût que ça soit les dinos qui gagnent, parce que, tu sais, cette humanité-là, je la veux pas, tu sais.
Ben, c'est que t'as hâte que les personnages changent dans le film, puis les personnages changent jamais. Il y a juste les mêmes personnages qui font juste... c'est produire les scènes d'action une après l'autre. Puis pour de l'action, il y en a, là, ça arrête juste jamais. Fait que ça, c'est quand même l'avantage au niveau série B. Là, tu regardes ça avec des amis, puis c'est vraiment drôle, avec des amis et une bière. Malheureusement, il n'y a pas de bière au cinéma, mais tu regardes ça avec des amis puis une bière, puis tu as beaucoup de plaisir. Mais dans le sens d'un bon film, tu sais, aurait changé les personnages en cours de route. Puis elle, il y aurait un moment où tu aurais voulu la voir, qui met des grosses bottes, qui s'équipe un peu plus... un peu plus dangereusement, là, puis qui peut aller affronter les dinosaures directement, mais ça arrive jamais.
D'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup d'articles là, qui sortent, là, les listes, genre 17 choses qu'on a appris pendant Harry Potter, des trucs comme ça. Puis un des meilleurs articles sur Jurassic World que j'ai vu, c'est sur screencrush.com avec c'est Matt Singer, un critique que je suis qui est très, très bon. Qui a quand même aimé le film, un peu comme nous, hein, plaisir coupable, mais il a fait le classement, donc, des. C'est. Tous les personnages classés selon leur stupidité, genre du plus stupide au moins stupide. C'est vraiment ça, genre the dumbest ou the less dumb, tu sais. Puis comme même le dernier, là, qui est comme le moins pire, il est quand même stupide, tu sais. Puis il explique qu'est-ce qu'ils font qui fait que les personnages sont stupides. Puis c'est ça, c'est que tous les personnages dans le film prennent les mauvaises décisions. Bon, ceci dit, on est négatif depuis tantôt. Comme tu disais, l'action, ça marche beaucoup, Rémi. La musique, tu sais. Quand on nous rejoue le fameux thème original, t'sais, un peu modifié, ça marche. T'sais. La film nostalgique, elle vibre. Puis aussi, Chris Pratt, là, c'est peut-être le meilleur lead d'Hollywood qu'on a depuis plusieurs années. Comme, t'sais. Genre, plus jamais on va accepter là, un Sam Worthington qui prend sa place, ou un, je sais pas moi, Aaron Taylor-Johnson,
Ou le dude qui pitch des flèches dans... comment il s'appelle?
Jeremy Renner.
Ben, Jeremy Renner, j'oublie tout le temps son nom. Lui est tellement fade.
Ben, je le trouve pas si pire encore, Renner, mais c'est ça. Comparé à Chris Pratt, là, Chris Pratt, c'est un vrai lead role. T'sais, il me fait un peu penser, mettons, à... Je sais pas, un Channing Tatum un peu, mais meilleur acteur. Mais non, vraiment, Chris Pratt, là, t'sais, il a du charisme à en revendre. Pis c'est lui qui porte le film sur ses épaules. Pis une chance qu'il est là, parce que sinon, on s'ennuierait un peu. Mais non, ça, il a vraiment le bon rythme.
Il arrive tard dans le film, tard qu'il arrive. Là, c'est comme, il arrive peut-être à 20 minutes dans le film, un truc comme ça. Là.
Ouais.
T'as hâte qu'il arrive, parce qu'au début, les personnages sont vraiment chiants. Puis tu vois vraiment, ça se passe, bon... pour les trois personnes qui l'ont pas vu, ça se passe dans Jurassic World.
Ouais, moi je l'ai pas vu.
The Park is Open, donc ça se passe là. Puis tu suis les deux enfants, en fait, qui vont rejoindre leur tante, qui est le personnage féminin qu'on parle depuis tantôt. Je n'aimerais pas le nom du personnage, je m'en fous un peu. Là. Puis les deux petits garçons vont voir leur tante, puis ils s'emmerdent. Genre, t'as le plus jeune qui a vraiment du plaisir à voir les dinosaures, puis le un peu plus vieux, il est tout le temps sur son téléphone cellulaire, puis il s'emmerde, mais comme... En tant que public, tu t'emmerdes autant qu'eux autres, puis c'est vraiment ça le problème. Puis quand Chris Pratt arrive, là, ça commence à être vraiment, vraiment plaisant à regarder.
Puis je trouve que c'est une caractérisation aussi qui commence à être un peu lourde. Là. Genre l'ado de 15 ans avec ses écouteurs Beats, puis genre son iPhone, tu sais, ça commence à être un cliché qui commence à être lourd. Ouais. Je sais qu'il y a du vrai, là, puis je sais que c'est comme...
Non, mais je suis d'accord avec toi, en fait. Oui, c'est ça, il y a du vrai, puis on peut en parler. Mais ça fait très, genre, justement, tu sais, comme... l'adulte dépassé là, qui parle donc des jeunes, là, mais tu sais, comme de la façon la moins en connaissance de cause possible. Tu sais, la surface là, de ce que c'est. Tu sais, si ça se trouve, je suis sur mon téléphone puis je suis debout. Tu sais, comme mettons, moi j'ai mon petit cousin là, qui est tout le temps sur YouTube, ouais, mais il a appris à jouer la guitare puis genre du drum sur YouTube. Tu sais ce que je veux dire? Mm-hmm. Il y a moyen là, de faire des affaires. En tout cas, ben, je veux pas lancer ça, c'est un débat qui est extra film, là, mais genre, c'est vrai que c'est lourd pour de vrai. Là, ça, là. C'est comme faut grandir. Là. Bon.
Et aussi, je pense que le meilleur rapport pour moi de Trevorrow à la franchise, c'est son petit côté justement indie, genre des dialogues drôles. Parce qu'il y a une couple de personnages qui sont dans la salle de contrôle, qui sortent jamais de là, des techniciens. Là. Donc Jake Johnson, un acteur que j'aime beaucoup, qui avait joué en Safety Not Guaranteed, puis d'autres aussi. Puis eux, vraiment, je trouve que c'est eux quasiment qui volent la vedette. Puis que...
Il y a des beaux moments en fait avec eux, puis c'est justement là tout ce qui est dans le dialogue puis dans les petites blagues, c'est pas dans nécessairement dans les espèces de scènes d'action.
Un peu finalement comme ce que James Gunn avait apporté aussi à Guardians of the Galaxy, un petit côté quirky, un petit côté le fun.
Parce que pour vrai, comme l'action c'est le fun, là, je veux dire, c'est comme je disais là, c'est plaisant, ça s'arrête pas, puis c'est un gros divertissement. Mais tu sais, comparé à l'original où il y avait vraiment des ambiances qui étaient créées, puis où tu croyais aux dinosaures dans un sens, là, les dinosaures étaient tellement bien faits là, avec les studios de Stan Winston qui créaient des dinosaures. Là, on le voit dans bande-annonce, là, je veux dire, il disait le CGI va s'améliorer dans le film, c'est juste des pre-renders ou je sais pas trop quoi. Là. Ils ont trouvé des excuses sur Internet là-dessus. Mais tu sais, les raptors, c'est des cartoons, là, puis ça paraît qu'ils sont en 3D, puis il y a pas la texture qu'il y avait dans les originaux, tu vois, que les acteurs pouvaient y toucher, là. Il y a quelques plans de temps en temps, mais en général, pour faire leurs beaux plans de caméra, ben, il faut qu'ils fassent en 3D, puis ça paraît, là.
Puis surtout, moi, pour l'inévitable suite qui s'en vient, je veux dire, arrêtez de retourner au parc, tu sais, ça a pas de bon sens, je veux dire, dans quel monde, après trois catastrophes incroyables et genre des dinos qui s'en vont puis qui s'échappent, on ouvre encore au parc puis c'est plein, tu sais. Je veux dire, trouver une solution pour amener la franchise ailleurs, tu sais, je sais pas moi, que ce soit des concurrents illégaux underground, que ce soit en Chine, tu sais, où il y a pas trop de permis, je sais pas, tu sais, trouver quelque chose qui fait que c'est pas encore des gens qui retournent au parc, tu sais, ça a pas de bon sens à un moment donné, là. C'est comme vous avez pas vu les autres films, tu sais, puis en plus ce film là c'est pas un reboot, ils font directement référence au premier film, fait que c'est comme, tu sais, quelle famille enverrait ses enfants à sa tante pour dire ah oui, va-t'en à Jurassic Park là, tu sais, pas de trouble, nous on va faire du ménage à la maison en attendant, tu sais, je veux dire, au moins le deuxième film, tu sais, il y avait justement un peu cette volonté
de l'amener dans la ville là,
ouais, puis c'était une espèce de truc de tu sais, des contrebandiers qui essaient de sauver les dinosaures, donc tu sais, il y avait une espèce de volonté un peu de,
c'était basé sur un autre récit qui avait été fait pré Jurassic Park, qui avait été fait pré King Kong, même The Lost World, puis il avait basé ça là-dessus, il avait basé avec les mêmes personnages. Je pense que je suis un des seuls dans l'univers qui adore Jurassic Park 2. J'adore ce film-là. C'est un gros film d'action Spielberg. Là. Il y a pas le cerveau qu'il y avait dans le premier, mais il est vraiment le fun. Puis la finale, justement, t'avais l'élément de surprise de t'amener un T-Rex en plein milieu de la grosse ville, puis il défait tout à la Godzilla. Là. C'est vraiment plaisant. Là.
Ben, il y a des belles scènes. Je veux dire, la scène où t'as l'espèce de l'espèce de Winnebago qui est comme sur le bord de la falaise, là, puis c'est comme...
Mais c'est de l'action à la Spielberg, là.
Ouais, c'est vraiment c'est ça. Bon, là. Mais bon, assez parlé de Jurassic World, surtout que tout le monde l'a déjà vu. Maintenant, un film plus récent, le 15e film des studios Pixar, Inside Out, de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen. Pete Docter, qui nous a donné Up et aussi Monster Inc. Précédemment, qui est peut-être un des meilleurs réalisateurs chez Pixar. Donc, on va en discuter. Donc, Inside Out, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une petite fille de 11 ans qui déménage d'une ville un peu plus banlieusarde à San Francisco et doit un peu faire le point avec la nouvelle école, la perte d'amis et tout le quotidien et les états d'esprit d'une petite fille de 11 ans. Et ce que ce film-là nous permet, c'est d'entrer dans sa tête alors que 5 émotions contrôlent donc ses actions avec un panneau de contrôle. Et donc, c'est une espèce de film à deux niveaux avec ce qui se passe dans sa tête et ce qui se passe donc dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu en as pensé, Rémi? Qu'est-ce que c'est ce film-là? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a des qualités, des défauts?
Ben, j'en ai pensé qu'il réussit à nous faire attacher encore à des petits bonhommes vraiment cartoonesques, puis à tellement te faire attacher à eux qui te font brailler à je sais pas combien de reprises, comme dans tous les Pixar qui fonctionnent. Là.
Parce que là, c'est drôle, parce que c'est littéralement des personnages unidimensionnels. Tu sais, c'est comme c'est ça, joie... C'est... tristesse, peur, dégoût et...
Je trouve que juste réussir à nous faire attacher à des personnages simples, comme tu dis, unidimensionnels, puis te faire attacher à un certain point où t'es stressé dans les scènes d'action, puis t'en pleures, tu vas jusqu'à en pleurer, t'es un grown man, puis t'en pleures, là. Tu te sens, tu te sens, ben, pas triché, là, mais comme... Pixar qui réussit... Ouais, mais qui réussissent encore à faire un coup comme ça, qui pourtant, en fait, de base, moi, la prémisse, je la trouvais c'est hyper classique, là. L'idée d'aller dans la tête de quelqu'un, qui a une tour de commande dans la tête de quelqu'un. Genre, François Pérusse l'a fait dans le début des années 90, là. Je veux dire, c'est comme une idée, là, vraiment, vraiment vieille. Il y a un sitcom qui utilisait cette idée-là. Mais de le faire de cette façon-là, de le faire à la saveur Pixar, c'est vraiment gagné, là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces émotions-là créent aident à créer des souvenirs à chaque jour. Donc, c'est des petites boules qui deviennent des souvenirs, puis chaque boule a une couleur différente selon si c'est un souvenir de la colère, un souvenir de joie, un souvenir de tristesse. Puis, tous ces souvenirs-là sont entreposés dans une espèce de méga giga entrepôt. Qui est la mémoire, là. Puis, dans le fond, il y a des espèces de souvenirs qui sont, c'est les souvenirs clés, là, de la petite fille. Ces souvenirs-là, ça fait que elle garde sa personnalité, puis elle reste quelqu'un d'intègre dans ses valeurs. C'est une prémisse quand même compliquée un peu pour les enfants, je pense, là, mais de la façon que c'est illustré, c'est vraiment bien fait, justement, avec les couleurs de chaque personnage qui sont associées aux mémoires. C'est assez simple de s'y retrouver, mais c'est quand même un gros setup pour ce que ouais. c'est, là.
Ben d'ailleurs, je me demande à quel point ça va plaire aux enfants, parce que c'est un film qui est très, très verbeux. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup d'explications aussi, parce que non seulement il y a les souvenirs, la mémoire, mais il y a aussi, bon, il y a le train de pensée, il y a les personnages imaginaires, il y a la mémoire à court terme, à long terme, il y a les îles, donc, qui sont les îles de personnalité. Tu sais, beaucoup de concepts, finalement, qui sont illustrés de manière... vraiment judicieuse, et puis c'est très intéressant la manière que c'est fait. Mais c'est ça, je me demande à quel point ça vise vraiment un public pour enfants. Je pense que c'est peut-être un film qui va plaire plus aux parents qu'aux enfants.
Ben oui, un peu comme Wall-E, tu sais, je veux dire, je sais pas à quel point que Wall-E était... Les enfants avaient vraiment la... Comment je peux dire ça? Peut-être la patience, du premier acte, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez consacré que Pixar fait vraiment pas jouer des films pour enfants, ou tu sais, c'est pas la grande nouvelle de l'heure.
Ben, Up, justement, tu sais, à part Monster Inc., dans son autre film qui est Up, c'est genre l'histoire d'un vieux monsieur qui a perdu sa femme, qui était stérile, il a jamais pu avoir d'enfant avec, puis il s'en va genre mourir là, de façon métaphorique, puis il rencontre un petit garçon que ses parents sont divorcés. C'est comme des thématiques super lourdes puis super adultes, justement, là. Mm-hmm. C'est des émotions comme vraiment poussées à fond, puis des thématiques qui sont jamais exploitées dans des films pour enfants, là. Je trouve que t'as justement beaucoup de niveaux d'interprétation pour des films comme ça. Puis Inside Out, c'est peut-être une réaction justement où c'est assez complexe à comprendre. Reste que c'est une grosse aventure, fait que je pense que les enfants peuvent s'y attacher quand même, mais de là à comprendre tous les niveaux d'interprétation du film, c'est quand même assez complexe, là. Puis, ça, oui, d'un film de Pixar.
Ce qui est intéressant de ce film-là aussi, c'est que c'est un film, finalement, que, pour une fois, je trouve que Pixar n'essaie pas nécessairement de faire le film le plus incroyable visuellement, puis le plus beau. Puis des fois, je trouve que c'est un défaut pour les films d'animation, ce qu'on essaie d'impressionner avec le style, tout ça. Mais là, vraiment, c'est l'histoire qui est au premier plan. T'sais, c'est les émotions, c'est les dialogues, les échanges entre les différentes émotions qui ont évidemment des personnalités très contradictoires. C'est super drôle, les chicanes, c'est pour qui contrôle quoi. Et vraiment, c'est ça, le film avance rapidement, il y a un bon rythme. Et tu sais, c'est que tous les personnages aussi sont quand même très bien développés parce que, bon, évidemment, la tristesse va être triste la plupart du film, la joie va être genre exubérante, mais ils ont quand même, tu sais, ils ont quand même une profondeur. Et justement, de rentrer dans le cerveau d'une petite fille comme ça et de pas infantiliser le personnage principal, ça vraiment, tu sais, c'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Tu sais, il y a des films pour enfants qui traitent les enfants avec intelligence, ça, c'en est un. Alors que d'autres, comme Jurassic World, on nous présente les enfants comme soit des adolescents désintéressés et complètement...
attardés quasiment.
Ouais, excités par les filles, tu sais. Ou sinon, c'est un jeune qui est juste ébloui par tout ce qu'il voit. Là, dans Pixar, on a vraiment une richesse de la jeune fille. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors que justement, un film comme Brave, justement, qui nous présentait une autre adolescente, ben le film, c'est un des plus beaux que j'ai vu de ma vie, peut-être, mais le scénario est banal, les dialogues sont assez...
C'est plus un Disney qu'un Pixar, en fait. C'est un peu ça, en fait, c'est que Pixar a pris une certaine tangente à un certain point, ils ont comme un peu divisé leur production, mais les Cars aussi, on s'entend que c'est comme, c'est juste pas pour nous, là, c'est comme, en fait, je me suis assigné hier un peu avec ma copine, justement, que moi, je déteste Cars, mais elle aurait un peu raison, dans le sens que ça va juste correspondre au public, les jeunes enfants, là, les enfants, ils trippent sur Cars à fond, mais... C'est, au bout du compte, nous autres, on en a un peu rien à foutre de... Ben, en tout cas, personnellement, moi, j'en ai rien à foutre de Cars, là. Mm-hmm. Fait que c'est de, peut-être de diviser leur public, puis Brave, ça s'en va plus dans le registre princesse de Disney, qui est peut-être un registre plus classique chez Disney, mais qui est justement pas ces films-là, les films ultra bourrés d'émotions, là, comme Inside Out, là.
Puis ce qui est intéressant, tu disais que tu avais pleuré pendant le film, moi aussi, j'avoue. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas un film qui nous manipule. Tu sais, des fois, genre, t'as l'impression... Que tu pleures parce qu'il y a une courte tragédie qui se passe, puis t'as l'impression d'être triché, mais là-dedans, j'étais content de pleurer. T'sais, c'est vraiment comme j'ai l'impression que Pete Docter a mérité mes larmes, dans un sens. Puis que non, mais c'était un beau moment. T'sais. Puis c'est pas juste des fois des larmes de tristesse, des fois c'est des larmes de joie, carrément. T'sais. Parce que, comme mettons dans un Toy Story 3, où t'sais, disons qu'il y a des personnages en danger, puis là, ça peut faire pleurer.
Mais Toy
Story 3, voyons donc. Les deux fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai pleuré comme un bébé.
La finale est incroyable.
Ça fait pas de sens. La deuxième fois, je suis avec mes parents, je me suis dit, cette fois-là, je vais être un homme. Mmh. Et non, j'ai vraiment pas été un homme. Je suis retombé, le petit gamin.
Ouais, moi, j'ai un peu de difficulté avec Toy Story 3, mais la différence, je trouve, c'est que là, il te met pas dans des situation où tu as besoin d'un sacrifice pour aller chercher l'émotion. Là, c'est comme il présente le quotidien de la vie. Puis c'est vraiment... C'est que c'est fait avec tellement de doigté, puis c'est présenté avec tellement de vérité, surtout, tu sais. Dans le sens qu'une petite fille, c'est que, tu sais, des fois, elle est triste, puis des fois, il y a des raisons pour ça, puis des fois aussi, elle est fâchée, puis ça nous présente des personnages qui sont fondamentalement humains, tu sais.
Tout ça, c'est important dans la vie. Ouais. En fait, c'est un peu la morale du film, puis... En voyant ces émotions, tu vois que tout est important, toutes les facettes de ta personnalité sont importantes, puis toutes ces émotions-là sont importantes. T'as pas besoin de te cacher derrière un masque pour vivre une émotion précise, puis t'as besoin de vivre pleinement. Hein.
Puis c'est drôle, hein, tu sais,
je l'ai vu. Encore, je pense, les gars, je pense que je vais pleurer encore.
Puis c'est ça, pis c'est drôle, puis je l'ai vu il y a juste quelques jours le film, puis il n'y a pas vraiment de scène en particulier qui se démarque. T'sais. Je trouve que c'est pas un film où t'as comme la grosse scène impressionnante ou comme mettons. T'sais, tout le monde va dire, oh, l'intro de Wall-E, c'est malade, après ça, ça va un peu.
La scène dans l'espace de Wall-E.
Ouais, c'est ça. Mais là-dedans, non, il n'y a pas vraiment de scène qui se démarque, c'est juste un tout qui est vraiment bien foutu. T'sais. Donc, pour moi, c'est peut-être le meilleur film de Pixar à ce jour. Il y a comme, moi, je trouve qu'il n'y a aucune vraiment faiblesse dans ce film-là. Alors que certains films, je veux dire, ah, mais ça, c'était un peu moins intéressant, ou ah, tel personnage est peut-être un peu con, ça. Mais là-dedans, vraiment, je trouve que c'est juste un film sans faute pour moi. C'est peut-être aussi avec un Wall-E et un Ratatouille, mais comme Wall-E, j'aime moins la seconde moitié.
Ouais, moi aussi.
Il y a quelque chose d'un peu moralisateur dans Wall-E,
mais en même temps, premier degré. C'est juste premier degré la deuxième moitié de Wall-E. C'est pas aussi subtil le message qui passe. C'est comme, eh oui, vous allez devenir comme ça si vous continuez comme ça. C'est très, très direct, là.
Oui, Mais je veux dire, on peut se permettre d'être aussi littéral dans un débat qui doit être aussi littéral. Tu sais, je veux dire, la préservation de la survie humaine par rapport à nos habitudes. Mm. C'est ça. Bon, bref. Fallait que ce soit foutu dans ta face. Mais le pire, c'est que je suis d'accord avec vous.
Mais je sais pas, parce que Wally, ça commence comme une histoire d'amour aussi. Tu sais, le film vraiment change de ton. Puis, ça aurait pu continuer sur juste l'histoire d'amour entre les robots. Tu sais, il aurait pu y avoir d'autres façons de faire le film.
Mais bon.
Puis toi, Rémi, tu le placerais où dans ton palmarès de Pixar?
C'est dur parce que je les apprécie toutes pour des raisons différentes. Puis ben moi, j'aime beaucoup, j'aime justement beaucoup Wally, là, justement, la deuxième moitié peut-être un peu moins forte, mais... Hey my God, Toy Story 3, attends, j'essaie de faire le tour, là. Je pense qu'ils ont tous comme un petit quelque chose de différent. Tu sais, Monster Inc, peut-être pour l'humour, j'aime beaucoup l'univers qu'ils ont créé, puis l'humour qu'il y a derrière... Pas le deuxième, là, par contre, là, mais le premier, je veux dire, c'est... Ah, attends un peu, là. Ben, j'aurais vraiment de la misère à les rater. Je vais faire ça, c'est un devoir que je me fais. Je vais faire un rating des Pixar. Il y en a que j'ai pas vu depuis longtemps aussi, ouais. Là, genre Bug's Life, là, je m'en souviens très peu de ce film-là. Je pense que c'est un des moins forts de Pixar, probablement, mais...
Ouais. Moi, je suis un gros fan aussi de Finding Nemo, hein. En fait, je trouve que Finding Nemo... Finding Nemo a vraiment levé la barre d'un cran, je trouve, surtout au niveau du voice acting. Tu sais, oui, je veux dire, Tom Hanks, il est bien bon, là, tu sais, mettons, pour Toy Story ou ces affaires-là, mais tu sais, je veux dire, il y a vraiment eu des personnages qui ont été créés jusque dans le détail, dans le trémolo de la voix, là, dans Finding Nemo. Il y a vraiment quelque chose... Après Finding Nemo, t'as comme franchi une étape, puis le voice acting de Pixar a un certain standard de qualité, puis il faut qu'il soit égalé, tu sais. Puis ouais, quand t'aimes finalement le jeu d'acteur, ben tu peux quand même le retrouver dans Pixar. Puis je trouve que Finding Nemo a vraiment mis ça de l'avant. Donc pour ce qu'il représente, je trouve que c'est un des meilleurs. Mais moi, pour...
C'est une histoire tragique, là. C'est genre tous ces enfants sont morts sauf un. C'est comme... C'est vraiment atroce aussi comme prémisse, comme beaucoup de prémisses de Pixar, justement. Puis, mais comme tu dis, c'est peut-être celui aussi que... Même au niveau de l'animation, là, je veux dire, il y en avait eu quelques-uns avant, peut-être deux ou trois avant Finding Nemo. C'était-tu comme le 4e?
Il y a eu Toy Story 95, Bug's Life, je pense, c'est 98, Monster Inc. en 2001. C'est-tu leur 4e?
Toy Story 2.
C'est 4e.
Ah ouais,
Toy Story 2. C'était peut-être le 5e, genre un truc comme ça. Mais il y avait quand même un méga bon au niveau de l'animation, vu qu'on était dans un univers aussi très naturel. Là. Puis y avait la technologie avait évolué pour permettre ça. Ouais, j'avoue, Finding Nemo, c'est vraiment un bon classique. Là.
Mais Wally, moi. Mais encore là, les gars, j'ai pas vu Inside Out. J'aimerais ça. J'ai vraiment un bon feeling, en fait. J'ai hâte de partager votre enthousiasme ou de finalement jouer à l'avocat du diable, mais j'ai...
C'est beau la façon qu'il joue, justement, entre le monde réel puis ce qui se passe dans la tête de la petite fille. Là, les changements entre les deux se font vraiment fluidement, puis c'est pas comme emmerder. Il n'y a pas une partie où tu fais comme « non, on est encore avec elle » ou, tu sais, il y a vraiment une belle fluidité entre les va-et-vient, les « inside and out » des personnages. Ça se fait super bien, ça.
Ouais, puis il y a tellement de trouvailles ingénieuses là, au niveau de justement ce concept-là. Moi, j'allais quasiment un peu avec scepticisme parce que le concept ne m'attirait pas tant que ça, mais c'est qu'ils ont tellement bien exploité le concept, ils ont tellement trouvé des choses. C'est comme, par exemple, au fur et à mesure du film, la console de contrôle de sa tête devient plus grande. Il y a une nouvelle fonction qui s'ajoute parce qu'une personne en grandissant a des émotions plus subtiles, il y a des nouveaux trucs qu'elle peut faire. Ses rêves, par exemple, ben, y a un studio télé qui s'occupe de produire les rêves.
C'est cool.
À un certain moment du film, ils vont visiter justement le studio de production. T'sais. Puis plein de détails comme ça qui sont tellement intéressants. Puis tout le monde a déjà un peu songé à ces idées-là. T'sais, ça touche à vraiment des questions philosophiques vraiment intéressantes. T'sais, comme pourquoi je me sens aussi en colère ou qu'est-ce qui se passe avec mes souvenirs? Est-ce que des fois, je me mets à oublier des choses importantes, des trucs comme ça? Puis là-dedans, ben, c'est anthropomorphe, en tout cas. C'est rendu...
Anthropomorphique, oui.
C'est ça, c'est illustré par des personnages, donc, qui ont l'air un peu des humains. Là. Donc...
C'est cool aussi, on parlait du voice acting, mais j'aime ça que Pixar, en fait, n'aille pas chercher nécessairement les méga... Je veux dire, il y a tout le temps une ou deux grandes stars, là, mais ils ont pris beaucoup de gens de la télé, tu sais, Amy Poehler, qui fait Joy, mais entre autres, Phyllis Smith, qui est un personnage principal, qui joue la tristesse, qui est comme une actrice qui a été très connue pour The Office, Mais elle joue un rôle secondaire dans The Office, mais le personnage correspond tellement à son personnage de The Office, justement. Juste dans sa voix, j'écoutais le film, j'écoutais vraiment littéralement le film, puis la voix me disait quelque chose, puis quand j'ai regardé à la fin que je vois que c'est elle, c'est comme une espèce de surprise, parce que c'est une actrice qui est pas nécessairement connue tant que ça, mais la voix est tellement parfaite pour le personnage, ils ont vraiment visé juste, là.
Non, c'est ça, mais c'est drôle que tu dis ça, parce qu'il y a trois des acteurs du film qui sont dans The Office.
Oui, exact, oui.
Puis un quatrième, je pense, qui est un caméo.
Oui, oui.
Donc, c'est vraiment une espèce de réunion pour eux. Mais non, c'est vrai, ça, Pixar va toujours choisir un peu la qualité du jeu avant le nom, tu sais, parce que ça a été facile là, de mettre un Chris Pratt, justement, tu sais, ou une grosse vedette. Ben, ça a été facile, ça a coûté cher, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont choisir ça, le talent, avant le nom. Donc voilà, Inside Out, on le recommande absolument. Je pense qu'il y a un film d'animation à voir cette année, pour l'instant, c'est lui à battre. Rapidement, vous, est-ce qu'il y a un moment fort de 2015 jusqu'à présent qu'on ne peut pas passer à côté?
Moi, Mad Max x2 au cinéma, là.
Ouais, moi, ça, moi,
come on.
Moi, je pense que ça reste Mad Max, là.
Non, Ex Machina, c'est vraiment...
Ex Machina, c'est vraiment bon.
Ouais, je m'étais fait un doublé, puis j'en ai pas parlé au podcast, mais j'étais allé voir Ex Machina, puis... J'oublie le titre toujours, The Madding Crowd, c'est le film de Vinderberg. Far From The Madding Crowd, c'est ça. Mm. Puis j'ai vraiment aimé ça. En fait, les deux films, c'est comme un film du passé, un film du futur, là. Mais ça a été vraiment un super beau doublé, en fait. Puis c'est deux films qui risquent de se retrouver pas loin de mon top de fin d'année.
C'est ça. Tu sais, moi, les meilleurs films que j'ai vus en 2015, c'est souvent un peu ceux qu'on rattrape de 2014, comme j'ai vu Winter Sleep, j'ai capoté ma vie, une couple d'autres films comme ça. Mais vraiment, de 2015, là, que sur IMDb, là, c'est entre parenthèses 2015 après le titre du film, là. Bon, ben, ceux-là, pour moi, en fait, c'est Ex Machina, carrément, hein. Film de sci-fi, minimaliste, mais très, 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 très bien fait, qui fonctionne et comme un thriller. Et comme une parabole, c'est très biblique, hein, je veux dire, tous les personnages ont des noms, je pense d'ailleurs, de personnages de l'Ancien Testament. Il y a quelque chose de très, très, très parabolique, de très épuré finalement dans son récit, et donc de très universel. Non, pour plusieurs raisons que je n'étalerai pas là en fin d'émission, qu'on a plus de temps, là, mais pour moi, Ex Machina, c'est un grand film.
Ouais, c'est assez incroyable, ça.
Ouais,
ben écoute, Pascal, si tu veux te payer un trip, tu savais que le lieu de tournage du film, parce que c'est un peu un huis clos, c'est un hôtel dans la vraie vie, et ils organisent depuis le succès du film, donc une espèce de tour, là, genre va voir les lieux de tournage du film, puis... Parce que bon, il y a certaines scènes sans studio, mais la majorité du film, ça, c'est un hôtel, je pense, norvégien, ou je sais pas trop quoi. Donc, voilà, tu peux aller le visiter avec ta douce.
Si, bon. Ça serait un... OK, c'est bon, parfait, c'est noté.
Donc, ça fait le tour de notre point de vue pour cette semaine. On va se laisser sur la bande-annonce du documentaire The Wolfpack de Crystal Moselle qui sort cette semaine. J'ai bien hâte de voir ça. Mon nom est Paul Andrew, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
I always, like, metaphorically described our childhood as, like... him being the landowner and us the people who work on the land.
My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off. Always lived in this apartment.
In the summer, there was more chance of us getting out. Sometimes we go out once a year.
This is like 3D, man. It's
very fresh out here.
And at one particular year, we never got out at all.
So movies opened up another world. If I didn't have movies, life would be pretty boring.
This outfit is made out of cereal boxes and yoga mats.
We didn't make any friends. We were homeschooled.
I did everything I could to escape my world. I kind of thought, why don't we do those films? It makes me feel like I'm living, sort of, because it's kind of magical.
I remember being very scared of going out into the world.
He thinks there's somebody following us.
I guarantee there's somebody following.
My father, his system was just like a ticking bomb. What did he expect when all of us become of age, we're still gonna do things his way.
I don't think our father knew we had it in us.
I guess he always saw us as the little boys who couldn't.
and then we transformed into the boys who can.